Adan Mickiewicz, Ziwilla. Les Grecs et les Romains, dans leurs histoires, nous ont transmis en suffisance pour notre édification des actes de femmes vertueuses et d'un cœur quasi viril. Notre Lituanie, elle aussi, ne manquerait point de semblables exemples si quelqu'un eût su les découvrir dans ses fastes et les retracer d'une plume d'or. Mais voyant hélas qu'il n'y a pour songer âme qui vive, j'ai pris à tâche, autant du moins que je le puis, de vous présenter une courte légende tirée des anciennes chroniques. Vers l'an du Seigneur 1400, il régnait à Novogrodek Stolimelida un riche et puissant prince nommé Koryat. Il avait une fille unique d'une étonnante beauté et qu'on appelait Ziwilla, c'est-à-dire Diane. Car par sa grâce merveilleuse, elle égalait presque cette déesse et l'on pensait communément qu'elle éprouvait pour le mariage une vive répugnance. Vainement, en effet, des princes et de puissants seigneurs avaient-ils envoyé de contrées lointaines des ambassadeurs demander sa main, à chacun elle avait opposé le même constant refus. Cela donna lieu au bruit qu'elle voulait demeurer jusqu'à la fin de ses jours dans l'état de virginité. Mais son obstination tenait à de tout autres motifs. Depuis un certain temps, la princesse Ziwilla s'était secrètement énamourée du Lituanien Poser, homme au cœur héroïque que ses éclatants succès à la guerre avaient placé très avant dans la faveur de Koryat, si bien qu'en son absence, c'est lui qui gouvernait l'Empire. Aussi ne lui était-il pas difficile de se ménager avec sa bien-aimée de fréquents et mystérieux rendez-vous où ils s'exprimaient leur amour et se consolaient mutuellement. Il advint que le prince Koryat, au retour d'une rapide expédition, s'attrista grandement en remarquant un profond changement dans sa fille chérie. Ses larmes, ses soupirs, ses pâleurs, ce trouble, ses frissons continuels devant son père, lui révélèrent tout. « Fille dénaturée !» s'écria-t-il. « Voilà donc que l'inconduite et le désordre font fait déshonorer pour toujours la maison paternelle. Allez, disparaît de ma présence, toi et celui qui t'a induite à mal, vous périrez d'une mort cruelle. » On proclama officiellement par la ville, au son de la trompette, que quiconque dénoncerait l'amant de la princesse ou fournirait à cet égard des indications s'en retournerait richement récompensé. Mais autant en emporta le vent, puisque personne ne savait rien de ses secrets amours, ou le sachant ne les dévoila à Koryat. La princesse Ziwilla avait été prise en singulière affection par ses serviteurs et sujets, et quant au guerrier Poreille, qui pleurait à la dérobée son malheur, il savait montrer à la cour un joyeux visage et nul ne le soupçonnait. Koryat, voyant que toute sa surveillance et ses recherches demeuraient infructueuses et n'aboutissaient à rien, tourna ses efforts contre sa fille et n'épargna point la menace. Mais la patience de celle-ci ne se lassait pas. « Mon père, lui disait-elle, j'avoue que je mérite un lourd châtiment. Punis-moi, me voici. Je n'ignore pas que je suis indigne de ta miséricorde. Je ne puis pourtant entraîner dans ma perte une autre âme innocente de peur d'offenser les dieux plus grièvement encore. » Le prince alors se départit un peu de ses premières rigueurs et il essaya de la prendre par la douceur, dissimulant sa colère sous de soyeuses paroles. Il lui promettait de lui pardonner sa faute si seulement il lui était donné de connaître le nom du séducteur. Ziwilla se taisait, ne répondant que par ses larmes et ses sanglots. Le prince, transporté de fureur, ordonna d'enchaîner sa fille unique et de la jeter sous bonne garde au fond d'un cachot d'où elle ne devait sortir que pour être bientôt conduite au supplice. Qui pourrait décrire les lamentations, le violent chagrin et les larmes dont fut remplie la ville entière? Naguère, la nation considéra la princesse Iwila comme une déesse de l'honnêteté et l'aimait à l'égal d'une mère adorée, car elle se plaisait à soulager le pauvre monde et elle tempérait l'humeur du prince envers ses sujets. Le peuple, en masse, se pressait dans la cour du palais, pleurant amèrement et mendiant pitié pour la pauvre princesse, sans pouvoir rien obtenir. En ce même temps, les frontières étaient troublées par les incursions que les princes ruthéniens faisaient en Lituanie. Ivan, ayant rassemblé force soldats de toute espèce, parcourait le pays en promenant par les villes le fer et le feu. Avant que la nouvelle ne s'en fût répandue, une foule d'honnêtes habitants avait déjà souffert, et lui, par une marche rapide, s'était avancé jusqu'à la capitale, à proximité de laquelle il établit son camp. Cela se passait la veille des fêtes de Péroun. Le lendemain devait avoir lieu le supplice de la princesse Iwila. Poré fut détaché par Coriat avec une poignée de guerriers d'élite pour arrêter l'ennemi pendant qu'on ferait sur les remparts les préparatifs nécessaires. Quoiqu'il eût affaire à un envahisseur cruel et de beaucoup supérieur en nombre, il ne perdit pas courage, mais il fondit avec une telle impétuosité sur les troupes qui avançaient sans ordre qu'il les tailla en pièces et les rejeta derrière leur retranchement de chariots. Cette journée aurait été témoin de la destruction totale des Ruthéniens si la nuit n'eût mis fin au combat. Poré, sans perdre de temps, enveloppa des siens l'armée ennemie, puis courut de sa personne porter à la ville cette heureuse nouvelle. La ville célébra de grandes réjouissances. Coriat alla au-devant de Poré avec un nombreux cortège et lui rendit toutes sortes d'honneurs en le proclamant son sauveur. Il l'invita à un banquet au château. Dès qu'ils furent seuls, Poré se laissa tomber de son long aux pieds du prince et lui rappela en détail sa fidélité et sa constance. « Mon prince et seigneur, voici que j'ai taillé ton ennemi en pièces, et les dieux te donneront de le détruire entièrement. Je me regarderai comme amplement récompensé si tu ne fais point périr ta fille unique. Mais si, au contraire, tu daignes me l'accorder pour femme, et en reconnaissant de cette grâce, je te consacrerai mes biens et ma vie. » Le prince, au lieu de lui témoigner de la bonté, laissa percer son mauvais vouloir et répliqua en ces termes. « Poré, tu m'as à la fois rempli de joie et de chagrin. Je me réjouis à l'énumération de tes dignes services, mais tu réclames une récompense qui n'est point en mon pouvoir d'accorder. Tu sais que nos saints et grands ancêtres, les princes lituaniens, ne donnaient point leurs filles en mariage à leurs sujets. Malheur à quiconque, sans respect pour son sang, dispose de sa personne à la légère. Malheur aussi à celui que le succès enorgueillit et auquel il inspire de trop hautes visées. En laissant de côté ces considérations, ma fille dénaturée a terni l'honneur de ma mémoire princière. Je me refuse à croire que tu l'aies précipitée dans cette honte. Mais d'où vient ton subit amour pour cette criminelle? Je ne te comprends pas. Il faut que tu te laves de ce simple soupçon, et je verrai alors ce qu'il me restera à faire. » Après cet entretien, ils se séparèrent. Très satisfaits en apparence, ils dissimulaient tous les deux leur fureur. Poré, blessé au vif de l'ingratitude de son maître et comme frappé de la foudre, pressentit qu'un malheur était suspendu sur sa tête. C'est pourquoi il se résolut à une vengeance que déjà il couvait au fond de son cœur. Le prince pensait de son côté qu'évidemment, par cette relation coupable avec la princesse, jointe à ses succès militaires, il voulait s'emparer de sa propre capitale. Il réfléchit donc au moyen de lui enlever la vie, n'osant le faire à l'instant même, de peur qu'il ne s'ensuivît un mouvement parmi le peuple qui, dans la ville, acclamait Poret comme son sauveur. De plus, jusqu'à l'entier écrasement de l'ennemi, le bras de Poret lui était encore nécessaire. Cela se passait dans la nuit d'avant la fête de Péroun. Le lendemain devait avoir lieu le supplice de la princesse Iwila. Pendant ce temps, Iwan, défait et étroitement resserré, s'attendait à voir arriver le moment fatal. Privé de tout espoir, il se tourmentait sans savoir qu'entreprendre. Tout à coup, les gardes du camp arrivent, lui dirent qu'un guerrier, couvert d'une noire armure, est arrivé au camp et réclame une audience du prince. Ordre fut donné à l'introduire. Il s'avança et dit « Knyaz Ivan, je suis Poret, qui deux fois ai défait tes soldats et par qui tu es cerné de toutes parts. Je viens remettre dans tes mains la ville et son prince, avec toutes ses richesses et son armée. Il faut seulement que tu t'engages, par un serment solennel, à ne pas anéantir la population par le fer et le feu, et à me donner pour femme en toute sécurité certaines princesses détenues dans la ville. Déjà allait poindre l'aurore du jour de la fête de Péroun, et ce jour-là devait avoir lieu le supplice de la princesse Iwila. Soudain, un fracas et un tumulte inattendu s'élèvent dans la ville. Les citoyens les plus énergiques périssent en s'opposant à cette violente irruption. Dominés par la crainte, les autres font leur soumission à l'ennemi. Poret brise les portes de la prison et trouve, c'est honteux à dire, sa bien-aimée, pâle, à moitié morte, abandonnée sur une couche grossière dans un obscur cachot. À la vue de Poret, elle perdit connaissance. On la transporta dans la rue pour la faire revenir à elle et rappeler ses esprits. On s'empressait autour d'elle, sans qu'elle sortît de son évanouissement. À ce spectacle, le peuple accourut. Il y eut des plaintes et de grands cris. Elle demeurait privée de sentiments. À la fin, elle ouvrit les yeux, reconnaissant, et fut étonnée de voir le peuple en foule et des ennemis en armes. Poret, s'approchant, lui dit « Bannis toute crainte, ma très chère. Ce sont les guerriers d'Ivan, les vengeurs de nos offenses, dont la protection ne nous quittera plus. » À ces mots, Iwila fut près de s'évanouir, de nouveau. Soudain, elle tira du fourreau le glaive de Poret et en dirigea la pointe contre sa poitrine avec tant de force qu'elle transperça d'outre en outre. « Traître ! » s'écria-t-elle. « La patrie était donc si peu de chose à tes yeux que tu l'as vendue pour un peu de cette beauté ? Homme sans honneur, c'est ainsi que tu m'as payé de mon constant amour ? Et vous, citoyens qui restez immobiles, comme si cela ne s'adressait point à vous, ne tournerez-vous pas contre ces brigands votre colère et votre vengeance ?» En achevant ces mots, elle se jeta avec son glaive sur l'ennemi le plus proche. À cette vue, le peuple remuait, comme si on eût aspergé de flammes, et prenant ce qui lui tombait sous la main, courut avec des armes et des glaives sur les Ruthéniens, qui ne s'attendaient à rien de semblable. On en extermina un grand nombre dans les maisons et dans les rues, on prit Iwan et l'on emprisonna le reste. Ziwila accourut sur la terrasse où se tenait Coriat, qu'on venait de délivrer. « Mon père ! » s'écria-t-elle. Et elle tomba sans vie. On l'enterra au pied de la montagne de Mendog. À cet endroit, on éleva un tumulus et l'on planta des arbres en souvenir. Les vieillards, en rendant grâce à Dieu Tout-Puissant de ne pas les avoir livrés à la honte et aux moqueries de l'ennemi, répètent à leurs enfants le nom de Ziwillah.